c'est l'histoire d'un engrenage. Un cours donné par Samuel Paty qui va lui coûter la vie. Nous sommes le 5 octobre. Le professeur débute son cours comme il le fait chaque année depuis 5 ans. Il trace une ligne au tableau. D'un côté, je suis Charlie. De l'autre, je ne le suis pas.
Les messages commencent le 8 octobre, deux jours après le cours. C'est la principale du collège qui engage la conversation et l'avertit des menaces.
La situation relative à votre cours sur la liberté de la presse s'est accélérée et aggravée aujourd'hui. Un individu a menacé de faire venir des musulmans devant le collège et d'alerter la presse.
J'écris aujourd'hui ce message car j'éprouve le besoin de dire que je ne soutiens pas notre collègue. Je refuse de me rendre complice par mon silence d'une situation dans laquelle je me retrouve plongé malgré moi.
Malgré ces justifications, la mécanique est enclenchée. Un parent d'élève publie une vidéo visionnée par le terroriste. Le dernier message vient de la principale. Nous sommes le 16 octobre. Elle annonce aux enseignants l'assassinat de Samuel Paty.
Montage réalisé par Jean-Christophe Francis pour introduire cette fabrique médiatique consacrée à l'enquête que vous avez co-signée cette semaine dans Le Monde avec Élise Vincent. Bonjour Nicolas Chapuis.
Bonjour.
Journaliste reporter au Monde chargé de la rubrique police, merci d'être avec nous. Une enquête qui s'inscrit, il faut le signaler bien sûr, dans un travail plus large d'enquête du Monde sur l'assassinat de Samuel Paty. Un article bouleversant, à vrai dire, qui était à la une de l'édition papier datée de jeudi et qui est toujours disponible pour les abonnés sur lemonde.fr. Vous avez donc eu accès, Nicolas Chapuis, au mail envoyé par Samuel Paty à sa hiérarchie et à ses collègues une semaine avant son assassinat. Et vous utilisez très justement ce mot dans votre titre « désarroi ». C'est cela d'abord du désarroi que l'on lit dans ses courriels.
Oui, on a eu accès à l'ensemble des échanges entre Samuel Paty, la principale du collège, et certains collègues à lui, et des parents d'élèves également qui interviennent dans cette conversation. Et on y lit effectivement le désarroi d'un professeur qui semble passer par plusieurs phases. D'abord l'incompréhension, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Dans un premier temps, il ne comprend pas la polémique qui lui tombe dessus, l'ampleur que cela prend, les différentes interprétations que les gens en font. Et puis, au fur et à mesure, un professeur qui se remet en question, qui admet des maladresses, peut-être des fautes personnelles, et qui en même temps est menacé de l'autre côté, donc se veut assez combatif sur le plan du droit. Et puis un professeur qui a la volonté d'expliquer à ses collègues ce qu'il a voulu faire. Mais c'est des échanges extrêmement humains entre Samuel Paty et ses collègues.
Absolument, et on voit aussi, et c'était évidemment significatif a posteriori, et avec tous les débats que l'on a pu avoir depuis sur la difficulté d'enseigner la liberté d'expression, on voit Nicolas Chapuis que Samuel Paty écrit qu'il n'utilisera plus les caricatures, mais qu'il prendra d'autres exemples pour parler de la liberté.
À plusieurs reprises dans la conversation, il dit, alors ce sont des mails, donc c'est difficile d'interpréter, est-ce qu'il le dit de manière ironique, est-ce qu'il le dit de manière franche, mais il le dit à plusieurs reprises, il dit je n'enseignerai plus, je ne montrerai plus ces caricatures, c'est trop compliqué. Il dit qu'effectivement il enseignera d'autres types de liberté, il dit qu'il parlera peut-être de la censure en Chine, qu'il parlera d'autres aspects, mais qu'il n'enseignera plus ces caricatures à l'avenir. On ne saura jamais si finalement il l'aurait refait, mais il a ce doute en lui, et il a manifestement, comme beaucoup de professeurs en France, beaucoup de questions sur cet enseignement de la laïcité.
Et du découragement aussi face à la difficulté visiblement que ça représente. Vous écrivez en creux, on perçoit tout le débat sur la liberté d'expression, la laïcité, l'enseignement des caricatures auquel Samuel Paty explique donc vouloir renoncer à l'avenir. Alors la principale soutient publiquement Samuel Paty dans un message envoyé à toute la communauté éducative. Elle le soutient et elle explique, elle aussi, comme lui, ce qui s'est passé, le déroulé. Mais ce qui ressort également dans votre enquête, c'est que la démarche de Samuel Paty a été débattue. En tout cas, ça n'est pas une majorité, mais certains enseignants, d'eux, a priori, n'approuvent pas, au moment où ça se passe, ce qu'il a fait avec cette séance sur la liberté d'expression.
Ouais, tout à fait. Ces mails, ils avaient, on a choisi de les publier avec ma collègue Élise Vincent parce que déjà ils avaient un intérêt sur le plan de l'enquête pure. Mmh. Depuis le début, on comprenait pas très bien ce qui s'était exactement passé dans le collège. Il y avait plusieurs versions qui circulaient. Oui. Il y avait la version fausse qui avait été relayée par le père d'une élève, relayée ensuite par des réseaux islamistes, ce qui lui a coûté la vie. Mais ce qui s'était passé exactement au sein du collège, on n'arrivait pas très bien à le comprendre. Et là, ces mails ont un intérêt parce qu'il y a les explications de Samuel Paty et de la principale sur ce qui s'est précisément passé dans ce cours. Donc ça avait cet intérêt-là, évidemment. Et ça a un autre intérêt qui est celui qui montre que à Conflans-Sainte-Honorine, finalement, c'est une salle de classe comme les autres. Il y a des débats, il y a des inimitiés aussi, mais il y a des débats sur la façon d'enseigner, sur la façon d'aborder ces sujets de liberté, les caricatures. Et effectivement, on voit deux professeurs qui se désolidarisent de leurs collègues. Alors, ils se désolidarisent avant les explications complètes de Samuel Paty. Donc, est-ce que quelle a été leur réaction ensuite, on ne le sait pas. Mais ils se désolidarisent et ils estiment dans des messages que Samuel Paty, par son attitude en classe, non pas par le fait d'avoir montré les caricatures, mais par le fait d'avoir proposé aux élèves qui le souhaitaient de sortir de la classe ou de fermer les yeux, que en faisant ça, il a fait une discrimination entre les élèves musulmans et ceux qui ne le sont pas. Et donc ces deux collègues se désolidarisent. Mais nous, on a voulu vraiment raconter ça au long, en laissant la parole à ces professeurs, pour montrer que c'est un débat, parce que c'est un débat qui est facile à juger une fois qu'on sait ce qui s'est passé derrière ce drame. Et donc on se dit, ces deux professeurs ne l'ont pas soutenu, etc. Et à vrai dire, j'ai vu des reprises de notre enquête dans d'autres médias qui ont anglais là-dessus, deux professeurs qui se sont désolidarisés, un peu comme s'il fallait stigmatiser absolument ces deux professeurs-là. Nous, c'était pas le but de notre enquête. Je pense que ces gens-là n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver, et que c'est des débats qui sont très humains entre des gens qui pataugent aussi. Et on voit aussi, ce qui est très intéressant, que finalement, cet enseignement de la laïcité, cet enseignement de la liberté, il est assez peu encadré. Chaque professeur dans son coin fait son propre enseignement, sa propre sauce, entre guillemets, et que chacun se débrouille un peu avec sa sensibilité. Et la sensibilité de Samuel Paty l'a amené à manifestement vouloir protéger les élèves en leur disant, voilà, je ne veux pas vous choquer, donc fermez les yeux ou sortez de la classe ceux qui pourraient l'être, ce qui a été vécu par certains comme une discrimination. Donc sa volonté de protéger, de ne pas froisser, finalement a été contre-productive auprès de certains élèves. Et donc on voit toute la difficulté qu'il y a dans cet enseignement.
Effectivement, et alors vous avez joint le rectorat de l'Académie de Versailles, Nicolas Chapuis, notamment pour évoquer ces dissensions, enfin ces débats entre enseignants, et donc justement le rectorat vous a dit qu'à partir du moment où l'affaire était partie sur les réseaux sociaux avec la diffusion de la vidéo, etc., le soutien était unanime.
Tout à fait. Eux, ils ont évidemment minimisé les dissensions à l'intérieur du collège, ce qui est logique. Ils sont dans leur rôle.
C'est le rectorat.
Mais ils nous ont bien indiqué que il y a plusieurs temps, le cours a lieu. En réalité, ils donnent deux cours le lundi, mardi. La polémique monte entre le mercredi, jeudi, vendredi. Les collègues envoient des messages le samedi matin pour se désolidariser. Et c'est le samedi dans la journée que le rectorat avertit Samuel Paty qu'une vidéo circule. Une vidéo qui donne son nom. Et à partir de là, on rentre plus dans une deuxième phase, qui est une phase plus judiciaire. Le rectorat incite Samuel Paty à aller porter plainte, ce qu'il promet de faire. Et à partir de là, Samuel Paty envoie un long mail d'explication à ses collègues, dans lequel il dit qu'il va porter plainte, que le collège va porter plainte. Il dit aussi dans ce message qu'il saisit les deux messages de ses collègues qui se sont désolidarisés à titre de preuve, parce qu'il estime que ce sont qu'il porte des accusations discriminatoires envers lui. Voilà. Et le rectorat indique effectivement que le lundi, une réunion est organisée entre tout le personnel de l'établissement, et que au cours de cette réunion, sachant que Samuel Paty fait l'objet de menaces, l'ensemble de ses collègues le soutient à ce moment-là.
Alors, vous l'avez dit, Nicolas Chapuis, évidemment, c'est délicat de publier ces mots, ces échanges, quand on connaît la suite. Vous nous avez dit, voilà, il y avait un but aussi d'information. Est-ce que vous avez eu des débats au Monde sur l'opportunité, justement, de publier ces courriels ?
Tout à fait, on a eu des débats d'abord entre nous avec ma collègue Élise Vincent avec qui on a fait la série d'enquêtes sur cet attentat terroriste parce que c'est des conversations privées bien que tenues dans un cadre professionnel puisque ce sont des conversations qui ont été tenues sur l'application interne du collège qui permet aux enseignants de discuter entre eux et puis aussi de discuter avec les parents d'élèves. Donc évidemment, on a eu ces doutes là, ces questionnements là. On a estimé avec évidemment notre hiérarchie au monde que les informations qui étaient contenues dans ces échanges de mails étaient d'utilité publique, qu'elles révélaient un certain nombre de choses comme j'ai dit tout à l'heure sur ce qui s'était passé sur l'enquête et que ces informations étaient d'utilité publique. On a jugé aussi que finalement après cet assassinat terroriste, Samuel Paty, il est brandi un peu comme un étendard par beaucoup de gens, étendard de la laïcité, de l'enseignement, de la liberté, et que finalement lui donner la parole très au long, puisque dans l'article, finalement nous on laisse la parole au mail qu'on enrobe assez peu. Voilà, on laisse la parole parce que on n'a pas souhaité la commenter nous. Le fait de lui donner la parole, le fait de montrer qu'il est extrêmement humain, qu'il doute lui aussi, que au-delà de l'étendard, c'est un homme qui doute, qui a des questionnements, comme je pense à peu près tous les professeurs de France qui sont amenés à traiter de ces questions-là, qu'il a il porte en lui finalement toutes les interrogations de l'éducation nationale actuellement, et que ça lui rendait un aspect très humain au-delà du symbole qu'il est devenu depuis son assassinat.
Cette enquête à lire donc en accès abonné sur lemonde.fr. Sur lemonde.fr, il y a aussi Nicolas Chapuis, la tribune des responsables de rédaction, de nombreuses rédactions, celle du Monde, celle des différentes chaînes de Radio France notamment. Nous n'accréditerons pas nos journalistes pour couvrir les manifestations autour du débat sur la liberté de la presse, sur cet article 24 de la proposition de loi sécurité globale qui a été votée hier soir. Je voudrais qu'on en dise un mot. C'est important pour les journalistes en général, Le Monde en particulier, de se positionner très clairement sur ce sujet.
Alors c'est très important, il y a deux sujets qui sont distincts, mais c'est extrêmement important, il y a une grosse mobilisation, l'ensemble des directeurs de rédaction qui signent une tribune là, qui concerne la question du maintien de l'ordre purement, le fait que les journalistes, les rédactions refusent de devoir s'accréditer avant d'aller couvrir une manifestation. S'accréditer, ça veut dire signaler à la préfecture où nous nous trouvons, où nous allons travailler, et donc finalement, sous couvert de nous protéger, c'est surtout une manière de contrôler notre travail sur le terrain. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter, évidemment.
Ça, c'est une réponse, je précise juste, à Gérald Darmanin, voilà, qui a invité les journalistes à se rapprocher de la préfecture de police pour couvrir
une
manifestation.
Oui, il a plus qu'invité les journalistes. Il a dit dans une conférence de presse que les journalistes devaient... Il était interrogé sur un journaliste qui avait été placé en garde à vue, et il a répondu en disant « Oui, mais ce journaliste ne s'est pas signalé à la préfecture, et les journalistes doivent se rapprocher de la préfecture. Sous-entendu, si vous ne vous accréditez pas en manifestation, vous pouvez être arrêté, être placé en garde à vue pour... tout simplement avoir exercé votre métier, à savoir couvrir une manifestation. Donc nous considérons que c'est une atteinte à notre liberté de travailler, évidemment. Et le deuxième aspect, c'est, vous l'avez dit, c'est cet article 24 de la proposition de loi qui a été voté hier soir à l'Assemblée nationale, qui est encore un long chemin législatif devant lui, mais qui restreint la liberté de filmer et diffuser des vidéos de membres des forces de l'ordre, sachant que c'est par ces vidéos filmées qu'un certain nombre d'affaires de violences policières avérées, sur lesquelles notamment nous au Monde on a beaucoup enquêté, ont été révélées, et que demain ces vidéos-là ne pourront pas être diffusées, ou en tout cas le diffuseur prendra le risque de se retrouver devant le tribunal risquant jusqu'à un an de prison et 45 000 euros d'amende. Et donc nous estimons que c'est une façon de limiter notre notre liberté d'information sur le terrain et une façon également de protéger les policiers, ce qui est très bien, mais oui, de protéger aussi les policiers qui commettent des violences, ce qui est beaucoup moins respectable.
Et on doit s'arrêter là. Merci beaucoup Nicolas Chapuis, journaliste reporter au Monde. On reparle de la liberté de la presse aussi dans la revue de presse des idées à 8h30. Pour le moment, vous écoutez France Culture, il est 8h.